Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Transition énergétique, un vrai défi pour les réseaux d'eau potable avec nous Michel Réguillon, président des canalisateurs du Sud-Est. Concert, festival Les Nouvelles Voix du 17 au 22 octobre prochain. Œnotourisme, le vignoble Offrant à Fleury. Calade, le journal. The Queen is dead. Toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service. C'était en 1947 la jeune Lilibet qui promettait de dédier sa vie à la grande famille du Commonwealth. Sur la robe de soie blanche de son couronnement, en 1953, elle fera broder l'emblème de toutes ses nations. La rose anglaise, le trèfle d'Irlande, le chardon d'Écosse et le poireau gallois. Mais aussi la feuille d'érable du Canada, le mimosa d'Australie, ou encore les deux fleurs de lotus pour l'Inde et Ceylan. La plus célèbre des personnalités du monde, la plus photographiée aussi, un morceau d'histoire. En trois quarts de siècle, l'homme a marché sur la lune, le rideau de fer est tombé, les femmes ont pu voter, Internet est né, le World Trade Center a été attaqué, le climat s'est réchauffé. 15 premiers ministres britanniques connus, 14 présidents américains, 11 russes et 10 français. Un long règne, une longue liste de géants de la planète côtoyés. Churchill, Nehru, Kennedy, Jean-Paul II, Gorbatchev et plus récemment Joe Biden. Mais aussi le tout Hollywood et la scène rock. Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Daniel Gray, Victoria Beckham, J.K. Rowling, même les personnages de fiction se sont joints à la pluie d'hommages. Le compte Twitter de l'ours Paddington, icône de la littérature enfantine britannique, qui avait partagé l'écran avec Elisabeth II dans une vidéo pour les 70 ans de son règne, a publié ce message. « Madame, merci pour tout. The Queen is dead. Long live the King. » Transition énergétique, un vrai défi pour les réseaux d'eau potable. Les enjeux de la gestion du patrimoine pour un meilleur rendement des réseaux. Une discussion avec Michel Réguillon, président des canalisateurs du Sud-Est. On l'écoute.
Ce syndicat représente les entreprises qui posent les canalisations et les conduites d'eau potable et d'assainissement essentiellement et tous les autres fluides sur l'ensemble du territoire à la fois de Rhône-Alpes et de PACA, du lac d'Annecy et en descend jusqu'à Nice. C'est un syndicat qui représente 124 entreprises adhérentes. On en a 84 en Rhône-Alpes, 38 en PACA. Et oui, j'ai oublié de vous dire, on s'étend aussi à la Corse, puisqu'on a 4 adhérents en Corse. Dans notre mission d'animation de la profession, on a aussi les contacts avec les collectivités, avec les agences de l'eau et avec tous les acteurs de l'eau.
Alors, effectivement, le changement climatique, on va dire, la question de la sécheresse aujourd'hui et l'eau qui devient un élément tout à fait important, qui est aussi un élément finalement économique. Vous tirez en quelque sorte un bilan des préconisations, hein, c'est cela hein, que vous défendez.
Oui, c'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps. Nous, notre cheval de bataille, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des réseaux qui sont installés, des réseaux d'eau potable installés en France. Et sur notre territoire, c'est à peu près le même niveau de pourcentage. Sur nos taux de rendement, le taux de rendement, c'est-à-dire l'eau qui arrive au robinet pour les usagers par rapport à l'eau qui est pompée et traitée, est de 80%. Donc, par déduction, on a un taux de perte de 20%. Chaque fois qu'on boit... on va dire 80 litres d'eau, ou qu'on livre 80 litres d'eau chez un riverain, on considère qu'on a perdu 20 litres au passage dans toutes les conduites qui sont vétustes, qui sont trop vétustes en tous les cas.
Donc il faut remédier à cela.
L'idée en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, et ce qui s'est passé cet été en est la démonstration, on a quand même, jusqu'à présent, on avait des collectivités qui distribuaient de l'eau en bouteille parce qu'il pouvait avoir des pollutions accidentes. Cet été, on a distribué de l'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les réservoirs, plus d'eau dans les conduites, plus d'eau donc au robinet. Donc on est dans un stress hydrique qui est absolument... on va dire qui était imprévisible à ce niveau-là. Et chaque été, c'est pire. On est pour preuve, c'est qu'on a quand même le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui est venu à Grenoble le 1er août pour constaté ce problème de gestion de l'eau, de manque d'eau. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'eau est partie dans trois grands domaines. Le domaine des abonnés qui ouvrent leur robinet sur l'utilisation domestique, mais c'est simplement un tiers. On a un autre tiers qui est utilisé par l'industrie et un troisième tiers qui est utilisé par les agriculteurs. Donc le manque d'eau, d'une manière générale, il impacte ces trois domaines. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on s'aperçoit qu'il faut préserver cette ressource en eau. D'ailleurs, de plus en plus, on appelle ça l'or bleu, l'eau. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui s'est passé cet été, la mise en lumière par à la fois le ministre de la Transition écologique, mais aussi par tous les pépins qu'il y a eu de part et d'autre sur le territoire, on se rend compte que c'est indispensable de préserver cette ressource. Et la meilleure façon de commencer à la préserver, c'est de ne pas la gaspiller. Et nous, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'avec ces 20% de pertes sur les réseaux, il est impératif de commencer à réduire ces pertes-là pour pouvoir récupérer 20% de la ressource possible.
Alors comment on fait ?
Pour alimenter et pour distribuer l'eau, on utilise donc des tuyaux, différents matériaux. La majeure partie, c'est de la fonte. On utilise des matières plastiques et on utilise également de l'acier. Ces tuyaux, ils ont une durée de vie, pour ceux qui sont les plus performants, ils ont une durée de vie d'environ 80 ans. Aujourd'hui, on a un rythme de renouvellement de ces conduites qui est de l'ordre de 150 ans. Donc vous voyez bien que de façon arithmétique, il nous manque 70 ans. On renouvelle 70 ans trop tard nos conduites. Donc automatiquement, on a des réseaux qui deviennent vétustes et qui ont des fuites à l'intérieur. Alors les fuites, comme vous l'avez dit, c'est la rouille, mais c'est effectivement c'est les épaisseurs tuyaux qui diminuent, c'est des joints qui s'abîment et c'est des trous qui apparaissent dans les canalisations. Alors, de temps en temps, elles sont visibles parce que on a tous vu des geysers d'eau quand c'est des fuites qui sont importantes, mais c'est pas les fuites qui perdent le plus. Les fuites qui perdent le plus, c'est celles qui sont invisibles, qui ruissellent dans la terre en permanence et qu'on n'arrive pas à détecter.
Donc, vous dites qu'il faut un renouvellement des tuyaux d'abord.
Ah, c'est la première des choses, puisque les tuyaux d'eau ils sont posés depuis plusieurs siècles et il y a un taux de renouvellement, un rythme de renouvellement qu'il faut absolument accélérer aujourd'hui. On renouvelle les conduites, on va dire, à la vitesse peut-être de ce qu'on faisait au milieu du siècle passé. Le problème, c'est que la population a augmenté, les réseaux ont augmenté, les linéaires de tuyaux sont beaucoup plus importants. On s'est beaucoup concentré pendant les Grandes Glorieuses et puis la fin du siècle et le début du siècle en cours, on s'est beaucoup concentré sur les extensions de réseaux. Donc on a beaucoup posé de réseaux, mais pour étendre les réseaux, pour s'adapter à la population, aux nouvelles habitations. Mais on n'a pas renouvelé les anciennes conduites. Aujourd'hui, il faudrait quasiment qu'on double les investissements de renouvellement en conduite d'eau pour se mettre à jour d'une façon rapide.
C'était Michel Réguillon, président des canalisateurs du Sud-Est, avec lui, une réflexion sur la transition énergétique des réseaux d'eau potable. Concert, festival Les Nouvelles Voix du 17 au 22 octobre prochain. Des premières scènes aux artistes plus confirmés, de jeunes talents à découvrir. Un extrait des rendez-vous de la programmation 2022 avec Olivier Bocongibeau d'Horizon, coprogrammateur du festival.
Oui, alors je crois que la jeunesse a du talent et elle le fait savoir. Et puis aujourd'hui, elle a de plus en plus de facilité d'accès au public par plein de choses, les réseaux sociaux et aussi les festivals qui mettent en avant ces talents émergents. Et je crois que cette année, cette 18e édition, on va le mettre sous le signe de la jeunesse au talent flamboyant, effectivement, avec une moyenne d'âge qui ne dépasse pas les 25 ans, c'est sûr, quoi. Je crois que la jeunesse, elle s'est toujours renouvelée. Il n'y a pas de combat d'anciens contre nouveaux. La jeunesse, c'est un volcan. Et puis, de plus en plus, si on doit décrire les tendances, on la voit cette année dans la programmation avec des artistes comme Luigi Pekka.
Promis, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche.
Ou Poupie.
Le détonat, ça toute l'année, on l'a trouvé. Je veux les pesos, dans tous les sens, les pensées.
Ou Roman.
I saw your eyes, my rock, my pillar. At first, but soon it was the same trouble in that bubble.
Il y a en fait Un décloisonnement des genres, des registres, des esthétiques, qu'est-ce qui est rap, qu'est-ce qui est pop, aujourd'hui on ne le sait plus. On passe d'un chant à une scansion de façon très facile. Et en fait, je crois qu'il y a une spontanéité et un talent évident. Et c'est ce décloisonnement, je dirais, des esthétiques et des influences.
On a quand même l'impression qu'il y a un renouvellement de la scène rap.
C'est la guitare électrique du 21e siècle, c'est-à-dire qu'il est partout, il s'est fini l'époque où on appelait le rap urbain, parce que le reste de la musique est rurale. Non, le rap, il est absolument partout. C'est un élément comme un refrain pop qui est un ingrédient en fait de la pop d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des refrains chantés, des couplets beaucoup plus scandés, et puis même parfois ça va dans l'autre sens. Et finalement, le rap, c'est un des ingrédients essentiels de l'expression de la jeunesse.
Alors des artistes flamboyants, pétillants.
Alors c'est des artistes, oui, pétillants, jeunes, qui ont chacun une expression bien à eux et très forte. On commence le mardi 18 octobre avec un double plateau de Pyjama et Chien Noir.
By the river.
Pyjama, c'est une jeune artiste qui est dans une expression folk, mais dans une attitude pop, qui a cette voix magnifique avec ses accords extraordinaires et ses harmonies.
I'll be waiting.
Et qui aborde des sujets à la fois profonds et légers, comme un journal intime. Et puis, c'est quelqu'un qui aime croquer les choses. Et d'ailleurs, elle est illustratrice aussi. Elle a sorti un magnifique livre pour enfants avec, où elle illustre des poèmes de Pomme. Enfin, c'est vraiment une artiste aux talents multiples.
Until the moon is glowing orange, like a dreamer.
Et elle sera suivie par l'artiste Chien Noir, qui est un artiste plus dans la mélancolie, mais qui a ses grandes mélodies, et c'est un grand poète, quoi.
On s'échappe belle à tout ce qu'on fait quand même, en étant sûr de rien. Au premier pas, au deuxième, aux voix qui nous appellent, à tout ce qui nous retient.
Et qui nous invite dans une introspection profonde et très forte. C'est un moment d'émotion. Ce plateau Pyjama Chien Noir est vraiment magnifique et c'est donc mardi 18 octobre au théâtre de Glézé. Le lendemain, mercredi 19 octobre, au centre culturel des Glétins à Jassan-Riotier, on découvrira le jeune Abel Chéré.
J'avale et je divague et vogue en bateau à voile.
J'avale.
Pour affronter les vagues, j'avale.
Jeune poète en français dans le texte qui, sur de façon légère, aborde des sujets profonds et comme l'amour et beaucoup l'échec amoureux, beaucoup de tendresse, de maladresse, beaucoup de sourires et quelques larmes. Et je crois qu'on sort du concert avec l'impression d'avoir rencontré un nouveau copain. Et ça, c'est fort.
De l'eau de vie à l'au-delà, je te vois, tu me tends les bras. De l'eau de vie à l'au-delà.
Le festival Les Nouvelles Voix du 17 au 22 octobre prochain. Œnotourisme, précurseur d'une offre touristique d'accueil variée installée à Fleury, Philippe Offrand est artisan vigneron. L'œnotourisme, une main tendue pour le développement de l'exploitation familiale, comme il nous l'explique.
Installé en 1984, à l'âge de 20 ans, je me rapproche de la retraite. On a développé un gîte, tout simplement parce qu'on avait un bâtiment qui était utilisé que pour les vendanges, et il suffisait de faire quand même des travaux assez conséquents pour le transformer en gîte de groupe. Et à l'époque, il y avait des subventions qui n'étaient pas négligeables pour le faire, donc j'ai franchi le pas. J'étais assez sceptique, j'étais pas convaincu que ça fonctionne bien, et en fait, ça a toujours très bien fonctionné. Et du coup, l'année suivante, j'ai recréé deux autres gîtes dans des bâtiments existants. Que j'ai aménagé. Plus le temps passe, moins je regrette. Tout va bien. Au niveau personnel, ça m'apporte une activité complémentaire au travail de la vigne, et notamment vis-à-vis de la commercialisation. Ça me permet de vendre du vin, de faire connaître nos vins, de faire connaître notre métier de viticulteur aussi. Donc ça, c'est tout bénef pour l'exploitation. Et puis, au niveau du village, bah, c'est vrai que ça amène du tourisme, ça amène de l'activité, hein, ça fait marcher les commerces. Donc tout le monde s'y retrouve. Et les gens sont très très satisfaits.
Précurseur d'une offre touristique d'accueil variée, installée à Fleury, Philippe Offrand est artisan vigneron à Fleury et également très engagé dans le no-tourisme. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.